venir dans les dernières heures. T'en demeure pas moins que c'est une situation qui est très critique pour les Canadiens pris à l'étranger.
Et d'ailleurs, tu te rappelles, mercredi dernier, on avait parlé avec une Montréalaise d'origine libanaise qui était là-bas au Liban, Siam Cortas. Elle m'a réécrit durant mon congé pour me dire que finalement, elle a réussi à rentrer à Montréal, mais qu'elle a dû faire un détour de 2 heures avec son taxi parce qu'il y avait des bombardements sur la route entre son domicile et l'aéroport.
On vit pas ça ici.
Non.
C'est quand tu vas là-bas que tu vois que la sécurité ici est quand même omniprésente. Il fait bon vivre ici, contrairement à là-bas. On a le plaisir de recevoir Francis Vézina, qui est un Montréalais qui était pris à Dubaï avec sa conjointe. Salut Francis, comment ça va?
Bon matin, mais ça va mieux, merci.
Merci d'être là. Parle-nous de ton histoire. Quelle a été ton expérience à Dubaï dans les derniers jours? Puis qu'est-ce qui te laissait craindre le pire pour la suite?
Oui, bien, puis juste préciser, là, nous, on était à Doha, pas à Dubaï. Tu sais, juste à quelques centaines de kilomètres de là, mais situation très similaire. Là, tu sais, notre expérience a été, tu sais, mon Dieu, pour y aller en ligne droite, là, ça a été quelque chose d'énormément stressant. On pensait, à tout moment, on avait comme la peur de c'est littéralement explosé. C'est un peu bête à dire comme ça. Mais tu sais, on entendait les explosions de façon très fréquente. On a vu des interceptions de missiles. On a vu des débris qui sont tombés dans les rues. C'est ça l'expérience qu'on a vécue. Okay.
Donc, t'étais sur place à Doha. Puis quand tu regardais dans les airs, tu voyais des missiles, tu voyais des interceptions, les débris qui tombaient. C'est quelque chose qui était du jamais vu pour toi, j'imagine. La Montréal, c'est rare que ça arrive.
À 100%, là, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait non plus, là, c'est pas quelque chose à quoi tu te prépares. Fait que, aussitôt que ça a commencé, là, on a commencé à faire des recherches rapidement sur qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait sortir d'ici. On a reçu énormément d'aide de nos amis et de notre famille au Québec là, qui ont notamment envoyé des communiqués de presse, mais qui sont allés chercher de l'information pour nous sur comment quitter l'endroit. Parce que le gouvernement n'était pas d'une énorme aide. Là, le gouvernement se trouve un petit peu entre l'arbre et l'écorce dans une situation comme ça où est-ce que ils essayent d'aider, mais ils peuvent pas faire des moves qui sont trop. Ils peuvent pas annoncer des moves avant que ce soit confirmé. Fait que nous, ça nous laisse dans un néant où est-ce qu'on n'a pas l'information, puis on ne sait pas si attendre ça vaut la peine parce qu'on n'aura pas d'aide. T'sais.
Francis, les premiers gestes que vous avez posés quand vous avez vu que ça a commencé à brasser, bon, vous en avez parlé avec votre famille, bien entendu. J'imagine que tu as cherché à savoir s'il pouvait avoir des vols, soit de Doha ou encore de Dubaï qui allaient vers Montréal. Mais par la suite, quand tu t'es dit il faut que je contacte le gouvernement, t'as fait quoi?
Bien, nous, on a contacté le gouvernement même avant que ça l'explose parce qu'ils nous avaient envoyé un courriel qui nous mentionnait que la situation au Qatar allait changer, en fait. Fait qu'on avait déjà essayé de les contacter pour leur demander qu'est-ce qui allait changer, c'était quoi le problème, puis on était déjà sur place. Est-ce qu'on devrait sortir? Puis il y avait un petit peu une langue de bois à ce moment-là. Ils nous ont dit « Ah, c'est pas à nous de gérer votre voyage, on fait juste vous dire si vous avez l'occasion de quitter, vous devriez quitter.
Oui. »
Ben c'est ça, tu sais, fait qu'on se retrouvait un peu à se dire, ben là, vous nous dites de partir, mais c'est pas à vous de gérer ça, fait que pas de problème, on va aller se rebooker un vol. On est arrivé pour se rebooker un vol, puis l'agent de Qatar Airways nous disait, tu sais, écoutez, des rumeurs comme ça, on en a assez fréquemment, nous, tant qu'on n'entend rien, notre compagnie, on vous le recommande pas, mais si vous voulez partir, je peux vous organiser un vol pour 3 heures cet après-midi, donc 12 heures d'avance comparé à notre prochain vol. Finalement, on a décidé d'attendre un peu, puis ça n'aurait rien changé parce qu'on a appris après que même les vols qui avaient quitté à 8h30 ce matin-là, donc quand on a reçu le courriel, avaient déjà fait demi-tour pour revenir à Doha. Fait que peu importe nos actions à ce moment-là, peu importe de façon préemptive qu'on aurait voulu faire, ça n'aurait rien changé.
T'es-tu rappelé de tes cours au primaire où on disait « cache-toi en dessous d'une table ou encore d'un cadre de porte pour que la maison s'écroule » parce que c'est ça, ça explose au-dessus de vos têtes, là.
C'était exactement ça. Puis, on a reçu plusieurs conseils justement par rapport aux explosions, de laisser les fenêtres entrouvertes. Comme ça, s'il y a un changement de pression à l'extérieur dû à une explosion, il faut que l'air puisse ouvrir la fenêtre et pas exploser, fermer les rideaux.
Qu'est-ce que tu dis à ta blonde pour la rassurer, Francis?
Pour vrai, ma blonde, ça a été une force de caractère incroyable là-dedans. Ouais. Elle a été plus solide que moi là, pour l'entièreté de l'opération, si on veut. Là. Puis pour elle, les risques étaient je vais le dire, un peu plus grand aussi, là, surtout quand on a traversé en Arabie Saoudite. Les mœurs là-bas ne sont pas les mêmes. Les lois sur les hommes et les femmes non mariés ne sont pas les mêmes. Fait que le risque était vraiment plus élevé de son bord. Puis ça a été une force de caractère incroyable là, dans toute cette aventure-là.
Francis, je sais que tu as des amis encore pris là-bas. Comment le gouvernement canadien en prend soin? Parce qu'on entend ici de Québec, c'est que le gouvernement canadien ne fait pas vraiment d'action concrète.
Oui. Ils ont organisé un déplacement en autobus là, pour quelques personnes qui étaient à Doha vers Riyad. Puis à partir de là, ce que j'ai compris, les gens vont s'organiser avec leur vol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Riyad, c'est à peu près à 8 heures de route. Tu as les lignes de l'Arabie Saoudite à traverser. Puis quand tu arrives là, l'aéroport est ouvert, mais il y a beaucoup de vols qui sont cancellés en tout temps parce qu'il y a des frappes constantes près de l'aéroport ou juste dans une zone où est-ce qu'ils vont juger que c'est pas opportun de faire décoller un avion, ce qui est une bonne chose là, en tant que tel de le fermer, mais ça reste que c'est extrêmement stressant et difficile de se trouver un vol à partir de Riyad. Une des choses qu'on reproche pas mal au gouvernement, c'est qu'ils ont attendu tellement longtemps à faire ça qu'à chaque jour qu'ils attendaient, à chaque 12 heures qu'ils attendaient, c'était des routes qui se fermaient, c'était des vols qui s'annulaient, puis il y avait de moins en moins d'options pour les gens. Alors que s'il avait passé une information qui était un peu plus claire dès le début, jour 1 ou 2, alors que tu sais, on le savait que ce conflit-là n'allait pas partir en 48 heures, là, personne ne s'attendait à ce que ça finisse en deux jours pour vrai. Elle nous donnait une information, il y aurait pu avoir plus de départs. Là, il nous reste quelques connaissances qui sont là-bas. Je sais qu'ils ont tous des vols de prévu, puis je leur souhaite que leur vol décolle. Mais je sais que c'est jamais certain.
Ouais, j'ai des chums qui nous écrit présentement au 418-971-1021, dont un qui est à Séoul. Là, il dit il n'y a pas de vol, là, on n'est pas capable de revenir. Ça a été quoi ton truc à toi?
Ben nous, en fait, là, on a maxé nos cartes de crédit à acheter des billets un peu jusqu'à temps qu'il y en ait un qui parte. Puis c'est ça, on a comme été chanceux d'en trouver un, puis on n'a pas trouvé de vol direct, là, juste pour être clair, là, on a pris un vol vers l'Allemagne, de l'Allemagne on a pris un train vers Paris, puis de Paris on a pris un vol vers Montréal. Tu sais, on a juste pris l'option qui nous amenait le plus loin à chaque étape. Le but c'était juste de s'éloigner à chaque fois le plus possible de ça pour éviter d'être dans la situation.
Tu refais-tu ta liste des priorités pendant ce temps-là, quand tu pars de Doha ou encore de Dubaï pour t'en venir vers 100%, le Québec?
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, là, tu es là-bas, on dirait que tu montes un plan dans ta tête où est-ce que tu te dis chaque étape de ce plan-là doit fonctionner, sinon je pourrais mourir. C'est un peu ça qui te passe en arrière de la tête, fait que tu essaies de planifier le plus serré possible pour avoir le moins d'incertitudes, pour être certain de réussir, parce que tu dis, si j'échoue, j'ai des chances de mourir.
On se parlait par texto hier, Francis, puis tu disais, hey, faut que je prenne le temps de retomber sur mes pieds. Comment ça va mentalement, présentement?
Ça va relativement bien, là, tu sais, je peux pas me plaindre parce qu'on n'est plus là-bas, mais la réalité, c'est que tu sais, on a encore des drôles de séquelles, là. Ma blonde, on se réveille la nuit, on est pas sûr on est où, tu sais, ça nous prend tout le temps un petit 5-10 secondes pour être certain qu'on est dans notre maison, tu sais, il y a tout le temps l'idée qui nous passe, mon Dieu, je suis encore là-bas, je suis dans une chambre d'hôtel au Qatar, je suis en Arabie Saoudite, tu sais, il y a comme tout le temps ce petit moment-là, le stress n'est pas 100% parti non plus. Fait que, tu sais, ça lie un peu à l'idée de comme, est-ce que je revois mes priorités de vie en ce moment? Tu sais, c'est ça, c'est comme, on a eu une peur de mourir qui était tellement réelle que là, ben, on repense un peu comment on vit nos journées actuellement.
Ouais, ben, s'il peut y avoir du positif à quelque chose qui était extrêmement traumatisant pour vous autres, c'est justement des fois de revoir ses priorités, là. Les petits moments de la vie qu'on n'appréciait pas tant, là, t'es content d'écouter Netflix sur le divan avec ta blonde parce que ça pète plus dans le ciel.
Ouais, exact, non, 100%. Fait que, tu sais, ces petites affaires-là, là, en ce moment, on en profite. Là, on a vu notre famille, on a vu nos amis, puis là, on se repose, puis on a eu énormément de support aussi là, ouais, de notre monde. Fait que, on a l'occasion de pouvoir en profiter un peu, puis on apprécie.
Francis Vézina, ça a été un plaisir, puis bien content que tu sois de retour parmi les tiens.
Merci beaucoup.
Salut. Bye-bye.
Merci, Francis.
Francis Vézina est un Montréalais qui était pris dans le secteur de Dubaï, plus précisément à Doha, qui est situé à quelques centaines de kilomètres de Dubaï. Quel moment d'intensité. Hein? sais, je l'ai vécu à plus petite échelle, je t'en parlais. Moi, j'étais pogné, il y avait une tempête de neige ici au Canada, puis il n'était pas capable de venir nous rechercher au Mexique. Puis il n'y avait pas rien qui explosait, mais juste dans l'aéroport, tout le monde voulait s'entretuer, là, puis ça faisait des semaines et des semaines que les gens...
Puis là, tout le monde cherche à partir le plus vite possible.
Je dis des semaines et des semaines, j'exagère. Des jours et des jours que les gens voulaient partir, sauf que leur vol était tout le temps retardé. Fait que là, c'était pendant le temps des fêtes, les gens étaient hyper stressés. Puis à un moment donné, il y a un gars de la garde nationale qui a levé sa mitraillette des heures, puis qui a dit « Tranquilos! » Puis là, j'ai dit à ma blonde de l'époque, « Demain, on se loue un troc budget, puis on remonte vers le Canada. Peu importe ce qui se passe, je décalisse. » Fait que j'ose pas imaginer qu'est-ce que je... Tu sais, t'as des missiles dans le ciel qui se font intercepter par d'autres missiles, puis ça pète.
Ça explose.
Puis les morceaux tombent chez vous dans ta cour. J'ose pas imaginer le stress qu'il doit y avoir.
Ben oui, t'entends les bombes, t'entends les missiles. C'est clair que t'as peur de mourir. Surtout qu'on le sait, en tant que guerre, puis on l'a vu justement avec ce qui est arrivé sur une école en Iran, il y a toujours de ces erreurs-là qui arrivent aussi. Donc, tu veux pas être l'erreur.
Ouais. Puis, c'est ça. Fait que tu remets tes priorités à bonne place, je pense, quand tu réussis à mettre tes... Mais c'est ça le meilleur truc. Hein. Ce que Francis nous a dit, là, c'est vous regardez la destination la plus rapide à atteindre. Il faut que ce soit la destination la plus loin. C'est ce qu'il a fait. Puis, il a réussi... en prenant 4-5 moyens de transport à revenir au Canada en toute sécurité. Il y a encore des chums là-bas.
Oui. Ils sont encore pris, là.
C'est pas tout le monde qui a assez d'espace sur sa carte de crédit aussi. Là.
Non, exactement.
Il y a ça doit coûter une couple de mille.
Puis c'est complètement différent. Ils en ont parlé avec sa conjointe. Ils se retrouvent en Arabie Saoudite. C'est pas du tout les mêmes règles.
Ouais.
C'est pas du tout la même façon de vivre. Cette adaptation-là aussi, qui dans un moment très stressant où tu sauves ta peau, tu peux oublier certains principes qui vont faire en sorte que tu vas être en difficulté aussi.
Je te garantis que s'il faut que je me mette une guenille sur la tête, je me mets une guenille sur la tête.
Ah, c'est clair. je veux juste en venir.
8h42, on va faire une courte pause. Après la pause, ben, c'est le retour de notre chroniqueur en politique internationale qui a remplacé Denis la semaine passée dans le pit stop. David Chabot qui sera là. On a plein de sujets à aborder avec lui. Si vous avez des choses à nous transmettre, ben vous le faites par texto.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la